Ça va? Merci Caillou pour cette belle lecture que tu as faite pour moi. Que Dieu te bénisse. Et je voudrais aussi profiter de cette matinée, remercier aussi l'équipe musicale qui nous a conduits dans les louanges, dans l'adoration. N'est-ce pas? Vous avez aimé ça, hein? N'est-ce pas? On peut acclamer pour eux? Bon, comme d'habitude, bon job. Bon, il faut que je trouve... Je n'ai pas ma télécommande, je ne sais pas où on l'a mis. J'ai oublié de prendre ça là-bas. Ok. Alors, ce matin, nous allons parler réellement de la réforme comme notre frère Stéphane nous a parlé déjà tout à l'heure. Merci, mon frère. Merci. Ah, merci. C'est vrai, je vieillis, hein. Je commence à avoir des cheveux blancs. 52 ans, c'est pas 52 jours, hein. C'est beau. Alors, c'est bien, merci beaucoup. Alors, ce matin, nous allons parler de la réforme. Si je vous demandais ce matin, vous avez des Bibles chez vous? Combien de Bibles avez-vous dans votre maison? Probablement, chacun de nous ici, si on veut être honnête, si on n'a rien, on a au moins une Bible chez nous à la maison. À moins que si on n'est pas chrétien. Mais je pense que les chrétiens ont plus qu'une Bible dans leur maison. Mais connaissez-vous l'histoire de la Bible que vous avez dans votre main? Savez-vous d'où ça vient? Savez-vous combien de personnes ont laissé leur vie pour ça, pour que vous vous l'ayez dans vos mains ce matin? Savez-vous le privilège que nous avons, comme chrétiens, d'avoir un écrit qui date de plusieurs années et qui est fidèle, et des gens ont travaillé dur pour que ça soit là et que nous puissions l'ouvrir aisément? Même on a des Bibles qui sont faites avec des bords dorés. On en a même sur nos iPads et nos iPhones. Mais ça a coûté cher à beaucoup de gens pour que nous l'ayons aujourd'hui. Récemment, notre sœur Jackie Henault était ici parmi nous. Elle a parlé de la traduction de la Bible, n'est-ce pas? On a entendu parler de ça. Et nous voyons comment c'est difficile de travailler pour faire transmettre la parole de Dieu dans d'autres langues pour que les peuples aient accès à cela. Alors ce matin, nous allons parler de la réforme. Nous savons que mardi passé, c'était le 31, n'est-ce pas? Le 31 octobre, ça faisait 500 ans que nous sommes retournés à l'Évangile. Les chrétiens du monde entier ont célébré les 500 ans de la réforme. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Les 500 ans de retour aux vérités essentielles de la foi chrétienne. Ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est ce qu'on a fêté. Et nous, à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, on veut emboîter le même pas avec nos frères et sœurs chrétiennes de pouvoir fêter les 500 ans à notre manière. Mais comment? En enseignant les 5 solas. Les 5 solas, les 5 messages qui étaient le message clé de la réforme. Mais ce matin, moi je vais parler réellement de sola scriptura, qui est l'écriture seule. L'écriture seule. Et il va arriver après, mais ceux qui vont me précéder, Stéphane viendra parler, on va parler de Christ seul, de la foi seule, de la grâce seule, pour la gloire de Dieu seul. Amen. Et c'est ça qui va être enseigné. Et ces différents sola n'ont pas pour but autre chose de nous souvenir de la réforme. C'est pourquoi j'ai dit la réforme, un retour à la source. Nous voulons être toujours à la source. Nous ne voulons pas nous débrancher de là. On veut demeurer à la source. Souviens-toi des 500 ans de retour de l'Évangile retrouvé. Amen. Vous savez, on va avancer pour qu'on sache quand même où je vais. Mon plan d'action qu'on va regarder ce matin. L'introduction, le contexte historique de la réforme, pré-réforme, et le démarrage de la réforme, le retour à l'écriture, et qui est sola scriptura, l'écriture seule. et on va arriver à la conclusion. Amen. Bien. Le contexte dans lequel la réforme a été faite. Premièrement, j'aimerais que nous regardions la pré-réforme. La pré-réforme qui a commencé avec John Wesley. Non, Wycliffe, n'est-ce pas? Wesley existe, mais c'est Wycliffe. John Wycliffe, un Anglais qui était professeur à l'université d'Oxford. Il enseignait la théologie et la philosophie. Et cet homme est un pionnier qui est appelé l'étoile du matin de la réforme. Quelqu'un qui est un visionnaire qui a compris rapidement les choses pendant le Moyen-Âge. Et on sortait du Moyen-Âge et lui, il a vu qu'on rentrait réellement dans la Renaissance. Mais la tradition des églises à cette époque-là avait tenu le peuple captif. La parole de Dieu n'était pas enseignée dans sa plénitude. L'Église catholique gouvernait partout, en Europe plus particulièrement. Il dominait partout. Et là, John Wesley, un jour dans sa lecture personnelle du Nouveau Testament, découvre que la parole de Dieu est une autorité souveraine qui vient de Dieu et qui doit être mise à la disposition de tout le peuple. Et que nous ne devons pas à personne, ni à Rome, ni au pape. Et il a tellement compris cela qu'il a traité le pape à Rome réellement d'un pape qui nage dans le luxe, c'est-à-dire en un mot, l'antéchrist. Et il a décidé de faire connaître cette vérité. Il a enseigné, il a cultivé cela comme il faut, pour que les gens puissent apprendre à vivre avec cette parole-là. Convaincu que la parole de Dieu est une autorité totale, souveraine, puissante, il a dit, il faut que tout le monde ait une copie de la Bible chez elle ou chez lui. Que tout le monde, que tous les Anglais puissent avoir une copie de la Bible. Alors John Wycliffe a décidé de traduire la Bible en anglais. C'était à l'époque en latin. La Bible était en latin. Et si tu voulais lire la Bible, il fallait connaître le latin ou il fallait apprendre le latin. Alors personne ne pouvait lire la Bible sans avoir appris le latin. Et c'était pour des personnes de grande classe. Des gens qui étaient riches, qui pouvaient avoir accès à cela. C'était seulement pour les prêtres ou ceux qui étaient dans le monastère qui pouvaient lire et pouvoir interpréter. C'était eux seuls qui avaient le droit, la même mise sur l'interprétation des Écritures et ils le traduisaient comme bon leur semblait. Alors, quand John Wycliffe a compris cela, il a dit, la Bible doit être mise dans la main de tout le monde. Alors il va se mettre à traduire la Bible dans plusieurs langues. Premièrement en anglais. Et vous pouvez comprendre que quand on parle de la SIL de Wycliffe, Société internationale de linguistique, en Afrique on appelle la SIL, et quand Jackie Eno est arrivé ici, on dit Wycliffe, l'origine vient de cet homme. C'est lui qui a institué cet organisme chrétien pour que toutes les nations du monde entier puissent au moins une fois avoir la Bible dans leur langue et pouvoir lire et comprendre parce que c'est une écriture qu'on peut lire et comprendre. Amen. Donc, Wycliffe va travailler dans ce processus, il va être chassé, il va être poursuivi et il va abandonner son travail à l'université, il va être chassé, exclu de l'université, il va s'isoler. Mais il continuera toujours de faire le travail à côté. Et à partir de son travail, d'autres personnes comme Jean Hus, comme Jean Calvin, comme Farel. Et ces gens-là viennent, sont des réformateurs aussi qui ont participé dans la réforme. Donc ce matin, je vais parler principalement de notre frère Martin Luther. Mais Martin Luther n'est pas le premier à faire partir le ballon. Je voulais que vous sachiez que d'autres ont commencé la réforme avant lui. D'autres ont travaillé sur la réforme. Donc, Martin Luther n'a fait que surfer sur le travail des autres pour pouvoir amener la réforme plus loin. Les gens ont mis tout le chaudron, ils ont mis tous les condiments dedans. Lui, il est venu, il a allumé le feu. Puis, c'est parti. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais que nous comprenions aussi que la réforme n'est pas le commencement de l'Église évangélique. Ce n'est pas le début de notre Église. La réforme n'est qu'un événement parmi notre histoire comme chrétien. C'est votre histoire, c'est mon histoire comme enfant de Dieu. La réforme commence, je pourrais vous dire, depuis, l'Église commence depuis Actes chapitre 2. Amen. Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu. L'Église naît le jour de la Pentecôte et l'œuvre commence et les disciples commencent à embraser le monde entier avec le message de Christ. Donc l'Église chrétienne n'a pas commencé en 1517 dans la réforme. Ce n'était qu'une façon de revenir à la parole que les gens avaient oubliée, que les gens avaient cachée. Alors ils ont rendu la parole accessible. Ils ont vulgarisé cela pour que tout le monde puisse désormais posséder la parole de Dieu, la lire, la comprendre et la vivre. Amen. Alors, maintenant notre frère John et Martin Luther King, pas King, il faut faire la différence, j'ai écrit même dans mes notes que je veux dire que ce n'est pas Martin Luther King. Martin Luther King, lui, il vient des États-Unis, celui-ci vient de l'Allemagne. Donc, Martin Luther réellement va prendre la relève et il va commencer à travailler. C'était un homme qui vivait dans les monastères. C'était un moine augustin. Il a travaillé dans l'Église catholique pendant des années. Il aimait Dieu. Il était sérieux, sincère. Alors, il payait les indulgences. Il marchait. Il faisait beaucoup de pénitence. Il priait pour chercher la face de Dieu. Mais malgré tous ses efforts, il était perturbé et troublé dans son âme. Il n'avait pas la paix. Et à un moment donné, il écrit même, il dit qu'il haïssait Dieu. Il dit, j'haïs Dieu. Pourquoi? Je l'aime, je le cherche, mais il ne me donne pas la paix. Et il est mon juge, il va me juger. Il haïssait Dieu, il l'a dit comme ça. Mais Martin Luther va travailler. Et un jour, il va lire. Il enseignait dans l'école la théologie, mais il ne connaissait pas vraiment l'évangile comme il fallait. Et quand il va lire dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et quand il va aller lire dans Galates que le salut est gratuit et c'est par la foi, alors il va dire, « Mais j'ai travaillé en vain. J'ai marché sur mes genoux pendant des mois et des années. J'ai monté des escaliers et descendre, tout cela. » Pour rien. Oh, pourtant, le salut que je cherche, c'est gratuit. Par la foi, je peux l'obtenir. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour cela. Alors, il va commencer à marcher et à propager ce message-là. Martin Luther va amener la réforme de cette façon. On va regarder. Est-ce que cela a été facile pour lui? Non. Attends, excusez, je cherche mes lunettes. Oh, c'est en haut ici, puis je cherche dans l'intérieur. Alors, donc, Martin Luther a agi de la façon, donc, comme je venais de le dire, et quand il a découvert que la vérité, parce que les indulgences, et les gens faisaient cela, l'Église catholique faisait payer de l'indulgence. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'indulgence. Quels sont ceux qui connaissent cela? C'est quoi l'indulgence? Une personne qui se lance dans l'eau pour me le dire, dans ses propres mots. payer pour faire sortir quelqu'un de purgatoire. N'est-ce pas? Alors, et c'est ce que l'Église catholique donnait. Ils donnaient des indulgences pour que les gens payent. Et c'est avec cet argent qu'ils ont bâti la basilique Saint-Pierre de Rome. Et qu'est-ce qui a fait que les gens sont arrivés là? L'Europe avait connu des problèmes de peste. Vous connaissez la peste? Et ça a tué plus de 20 à 50 millions de personnes. Et des gens souffraient. Les gens ne savaient pas où ils allaient partir après la mort. Et tout le monde voulait savoir s'il pouvait être sauvé. L'Église catholique a profité de ce moment-là pour pouvoir vendre des indulgences, pour dire que si tu payes ça, tu pourras même payer des indulgences pour des péchés que tu vas commettre plus tard. C'est-à-dire, j'ai envie de tuer quelqu'un là, je vais aller payer l'indulgence et puis après, je vais aller faire le crime. Et puis c'est correct. Tu as envie de commettre l'adultère, voler, faire quoi que quoi, tu pourras aller payer et puis aller faire d'avance. Et où est-ce qu'on trouve ça dans les Écritures? Nulle part. Mais les gens, à l'époque, l'Église vendait des indulgences pour que les gens puissent se trouver une place au ciel. Ils pouvaient passer un laps de temps dans l'enfer, purgatoire, et puis quand tu payes beaucoup, dépendamment du montant que tu donnes, alors ça te permet de sortir de là pour aller au ciel. Alors j'ai l'impression que ça ressemble un peu à l'islam. Quand j'étais dans l'islam, on nous disait que ceux qui ont péché beaucoup, le jour du jugement, ils vont avoir à marcher sur un pont qui est la grosseur d'un cheveu. L'épaisseur du pont est la grosseur d'un cheveu. Et fin, et puis tu dois marcher dessus. Il y a le feu des deux bords. Si tu tombes, alors tu vas avoir besoin de l'intercession du prophète Mohammed pour qu'on te sorte de là et après pour t'amener au paradis. Est-ce que ce n'est pas la même idée? Alors, Luther, quand il va voir cela, il va être offusqué et à partir de ce moment, il va venir plaquer ses 95 thèses devant la porte de l'église à Wittenberg. Et il présente cela à Wittenberg, que la vérité que lui croit, comme Stéphane a dit tantôt dans son annonce, pour que les gens puissent comprendre que ce qu'ils vivent dans l'Église n'est pas la vérité de Dieu, c'est la tradition et tout ce qui n'a pas de rapport du tout avec la parole de Dieu. Alors, donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et quand il a été confronté avec toutes ces thèses-là, ils l'ont appelé. Rome l'a fait asseoir. Avec tous les rois et les princes, ils ont essayé de le forcer à nier toutes les thèses qu'il avait. Il a refusé. Et voilà ce qu'il a dit. Il dit, si l'on me convainquait par, si l'on ne me convainquait pas par le témoignage de l'Écriture ou par la raison décisive, que je ne suis pas, que je ne puis me rétracter, car je crois ni à l'infaillibilité des papes, ni à celle des conciles, car il est manifeste qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Mais ma conscience est à la porte, est à la parole de Dieu. Je ne puis et je ne veux rien révoquer, car il est dangereux et il n'est pas juste d'agir contre sa propre conscience. Que Dieu me soit en aide. Il demande que l'aide vienne de Dieu pour lui. Mais il refuse de se rétracter. Il refuse de rejeter tous les écrits qu'il avait affichés. Il croyait que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et sa conscience était attachée à cela. Donc il refusait de nier tout ce qu'il avait écrit. Même s'il était devant tous ces rois-là et le pape, la papauté romaine qui pouvait le détruire en un clin d'œil comme ça. Il ne l'a pas fait. Ce matin, la question, quel est l'état de ta conscience par rapport à la parole de Dieu, toi? Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans ton cœur, dans ta vie, dans ton quotidien? Lui, il s'est battu pour cette parole-là. Il ne l'a pas laissée de côté. Il a tenu ferme. Malgré vent et marée, il est demeuré fidèle. C'est des questions que nous devons réfléchir. Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans notre vie? Quel attachement accordons-nous à la parole de Dieu? Comment nous la vivons tous les jours? Si demain matin ou ce matin, quelqu'un s'arrêtait à la porte avec un fusil, si tu ne renies pas ta foi, je te descends. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que nous ferons? Alors, donc, lui, je n'ai pas compris. Elle dit quoi? Tire! Bravo! Tire! Je vais aller plus vite au ciel. Et c'est pourquoi Paul dit, mourir m'est un gain. La vie, ma vie c'est Christ, mourir m'est un gain. Donc, des tirs. Alors donc, nous venons dans l'écriture maintenant. On va regarder sola scriptura. C'était que l'introduction pour nous amener à comprendre l'arrière-plan de cela, de la réforme. Sola scriptura voudrait dire l'écriture seule. L'écriture seule. Nous venons de lire tout à l'heure dans la Bible, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17. Alors, nous avons lu ce passage-là. Et mon point, je ne pourrais pas définir tout le texte qu'on a lu. Mais je vais aller seulement avec les versets, quelques versets qu'on va regarder pour survoler rapidement ensemble. L'autorité de l'écriture. Croyez-vous que la Bible que vous avez dans votre main est la parole de Dieu? Est-ce que vous la croyez profondément ou bien vous la croyez au niveau du cerveau seulement? Intellectuellement? Parce que l'application à la fin va nous dire si tu crois intellectuellement ou vraiment profondément. Alors, il nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Toute l'écriture, pas quelques écritures, mais toute l'écriture. Mais quelle écriture il s'agit? Quand on parle de l'écriture ici, il s'agit de l'Ancien Testament. Quand Paul parlait, le Nouveau Testament n'était pas encore accompli et écrit totalement. Donc il parlait de l'Ancien Testament. Toute l'écriture, toutes les écritures de l'Ancien Testament, toute la prophétie à l'intérieur est inspirée de Dieu. Donc, l'autorité de cette parole vient de Dieu. Inspirée voudrait dire souffler dans. Souffler dedans. Alors, Dieu a soufflé sa pensée dans l'homme. Même si l'homme a participé à l'écrit, mais c'est Dieu qui a soufflé sa pensée en lui pour qu'il puisse l'écrire. Alors, c'est pourquoi toute l'autorité de la parole vient de Dieu. Et c'est la vérité et c'est une autorité, elle est puissante et elle va travailler dans notre vie. Alors, c'est une écriture inspirée de Dieu. Donc, elle a de l'autorité, elle a de pouvoir. Alors, si je crois que la Bible est la parole de Dieu, alors ça va définir ma façon de penser, ça va définir ma façon d'agir, ça va définir ma façon de réfléchir, ça va définir ma façon de travailler en société et individuellement. Tout ce que je fais va être fait par rapport à cela. Je ne peux pas dire que la parole de Dieu a l'autorité et puis je suis chrétien puis je n'obéis pas. Comment nous pouvons savoir que la parole de Dieu a l'autorité? Dieu lui-même le dit et Jésus-Christ lui-même s'est référé à ces écrits-là. Et il dit aux Juifs, il dit vous lisez les Écritures, vous sondez les Écritures pour chercher la vie éternelle. Or pourtant ces choses-là parlent de moi. Dans Jean 5, 39, c'est ce que Jésus dit aux Juifs. Donc, Jésus fait référence à l'Ancien Testament pour dire que c'est la vérité, que c'est la parole de Dieu. Donc, ça a l'autorité dedans. Parce que si Jésus cite les Écritures de l'Ancien Testament, si ce n'était pas de la parole de Dieu, il ne les aurait pas citées. Amen. Donc, c'est parce que ça fait poids, ça fait force. Si la Bible est la vérité, si la Bible est la parole de Dieu, je te demande ce matin, quand tu prends tes décisions, est-ce que tu tiens compte de cela avant de prendre tes décisions? Quand tu es face à des situations compliquées de notre situation, société, est-ce que tu fais recours à la parole de Dieu? Ou bien tu vas voir des psychologues, ou bien tu vas voir d'autres personnes, ou bien tu vas voir tes amis, d'abord avant de consulter l'Écriture. Qui sont tes conseillers? Le psaume 1 nous dit quoi? Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. N'est-ce pas? L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Es-tu une femme ou un homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Qui sont tes conseillers? si la parole de Dieu a l'autorité sur toi, quand tu prends des décisions par rapport à ton foyer, est-ce que tu consultes l'Écriture? Quand tu prends des décisions par rapport à ton travail, est-ce que tu consultes l'Écriture? Beaucoup de chrétiens disent dans la maison de Dieu, je suis chrétien. Ils chantent, ils sautent, ils gambadent comme des cabris dans l'église. Et quand des problèmes difficiles arrivent, ils jettent la parole de Dieu par le revers de la main. Ils croyaient quand il n'y avait pas de problème. Mais quand le problème vient, ils ne croient plus en elle. Elle n'est plus la parole de Dieu. Est-ce ton cas ce matin? Est-ce notre cas ce matin? À quel moment cette autorité agit en nous? Si la Bible est la parole de Dieu, si elle a l'autorité pleine, elle doit avoir autorité pleine sur ma vie, sur tout mon être, sur toutes les sphères de ma vie, sur tous les aspects de mon être. Il n'y a pas un côté qui va être affecté par la parole et l'autre côté n'est pas impacté par la parole de Dieu. Mais malheureusement, quand nous regardons, sans juger, mais c'est des faits, je veux parler avec des faits. Quand des gens divorcent, qu'est-ce qu'ils disent? On ne s'aime plus. Mais tu l'aimes plus? Mais tu as oublié? Tu as oublié la parole que tu as donnée devant le Seigneur quand tu te mariais? Quand tu as dit que tu prenais le monsieur ou la madame, que rien ne te séparera pas si ce n'est pas la mort et que les hommes ne te sépareront pas, personne d'autre, si ce n'est la mort. Alors, un moment arrive, ce n'est pas la mort qui te sépare. Hein. Toi, tu décides, dis, ah, je ne l'aime plus. Ce sont tes sentiments qui parlent, tes émotions qui parlent. Alors, on impose le divorce à l'autre. Que ce soit la madame ou le monsieur, je ne suis pas en train de dire qui a raison, qui a tort, mais je suis en train de parler des faits. Quand nous sommes chrétiens, quand des situations difficiles arrivent, comment nous agissons? Au lieu de dire oui, j'ai donné ma parole, je vais avancer avec. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Dieu, tu as dit, j'ai promis devant toi d'être fidèle à ma femme, j'ai promis d'être fidèle à mon mari. Il y a des difficultés, oui, je ne comprends pas tout, je ne cerne pas tout, mais je te prie, Seigneur, aide-moi de tenir bien dans mon foyer et de prendre soin de ma femme comme il faut, de prendre soin de mon mari comme il faut, de prendre soin de mes enfants comme il faut. Je ferai tout ce que je peux à mon pouvoir. Je ne serai pas celui qui va gâter, mais celui qui va bâtir. Amen. Alors, si la parole de Dieu est importante dans ta vie, quand les moments difficiles viennent, voilà qu'est-ce que tu fais. Tu fais recours à la parole de Dieu. Ceci étant dit, je ne suis pas fou. Je sais aussi qu'il y a des contextes qui sont difficiles. Que des gens ont divorcé, pas parce qu'ils voulaient divorcer, parce qu'on le leur a imposé. Je comprends ça aussi. Mais je ne suis pas là pour juger qui a raison, qui a tort. Mais simplement, je veux savoir comment la parole de Dieu tranche vos situations. Qu'est-ce que nous faisons avec cette parole-là que nous aimons tant? Amen. Que Dieu nous aide. Elle nous dit ici, la parole de Dieu, ici, dans Pierre, elle nous dit que non seulement c'est inspiré de Dieu, on nous dit qu'aucune prophétie, quand je vais le lire, il dit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme ou qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que la prophétie, la Bible que tu as dans ta main, que j'ai dans ma main, n'est pas le fruit du travail d'un individu. C'est le fruit de l'inspiration divine. Alors donc, Dieu l'a inspirée, elle vaut et elle a l'autorité, elle doit tout décider pour nous dans notre vie. Martin Luther a dit ceci, on va le lire, dit, la vraie règle est la suivante. La parole de Dieu établit les articles de la foi et de ce que l'on croit. Et personne d'autre, et même pas les anges, ne peut le faire. C'est-à-dire que la parole de Dieu établit les normes. Les normes de ta vie. Vous savez que quand on construit une maison, ceux qui sont les grands constructeurs ici, là, je vais demander Pierre Paquin, là. Pierre Paquin, la mesure que tu prends là, c'est pas le tape là, je parle pas de tape là. La budule avec l'eau dedans là, comment vous appelez ça? Le niveau. Alors, le niveau là, je suis présentement au niveau parce que le rond là est au centre. Hein. Donc, le niveau là, quand tu mets, ça te donne le niveau du mur, n'est-ce pas? Si ce n'est pas droit, tu dois tasser le niveau. Tu dois t'arranger jusqu'à ce que tu obtiens le niveau pour construire un mur droit. Pas le museau, mais le niveau. Amen. Pour obtenir un mur droit. Alors, dans ta vie chrétienne, la parole de Dieu est le niveau pour toi. Est le niveau pour moi. Elle a pour but de me mettre droit. Quand je suis penché, la parole de Dieu me met droit. Si je marche croche, la parole de Dieu dit, je suis croche, je dois venir à la ligne. Si je suis dans les champs de patates, il dit, monsieur, tu roules dans les champs de patates, reviens sur la route. Alors, la parole de Dieu, l'Écriture nous dit dans Jacques, il dit, c'est comme un miroir. Quand tu regardes dedans, tu vois qui? Tu vois toi-même. Il n'a pas dit que c'était un rétroviseur, hein? Un rétroviseur, quand tu es dans l'auto, un rétroviseur, tu conduis, tu ne te vois pas, tu vois l'autre derrière. Mais la parole de Dieu est un miroir pour toi. Quand tu regardes, tu conduis, c'est toi que tu dois voir dedans. Donc, l'autorité de la parole de Dieu ici est établie par ces dirigeants-là, par ces hommes de foi, ces réformateurs qui ont donné leur vie, qui ont travaillé durement pour qu'elle soit établie et qu'on puisse l'appliquer dans notre vie. Et ils se sont battus pour amener la parole au centre, pour que l'Écriture soit christocentrique, que nos pratiques soient christocentriques et que nos louanges soient christocentriques, nos adorations soient christocentriques, à tous les niveaux, que ça soit centré sur la personne de Christ et pour la gloire de Christ. Amen. Et c'est ça que nous allons voir dans les jours à venir. C'est ça qui va nous être enseigné. Et ces gens-là sont morts pour cela. Quelques applications, on va regarder ensemble. Peut-être que j'ai déjà citer cela pour vous. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu pour toi? Si oui, quelle place occupe-t-elle? Quelle autorité la Bible a-t-elle dans tes décisions? Comment la Bible détermine-t-elle? Détermine ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire? Hein? Où vas-tu chercher tes réponses face aux questions de la société? Par rapport à l'homosexualité? Par rapport aux sociétés LGBT, en tout cas, je ne sais pas si c'est LGBT ou bien LTGB, c'est quoi? LGBT, donc ils vont finir avec la lettre alphabet, les 26 lettres de l'alphabet, elles vont terminer, il y en a, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais quand nous sommes dans cette situation, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui décide pour nous? Quand tu es face à un patron qui réellement est croche et toi tu dois être droit, est-ce que tu fais recours à la parole de Dieu? Bientôt, les impôts vont venir, on va aller payer nos impôts, hein, n'est-ce pas? Comment tu vas faire? Est-ce que tu payes tes impôts? Est-ce que tu vas les faire comme il faut? Ou bien tu vas essayer d'être croche quelque part? L'Écriture est là. L'Écriture est la norme de la marche du croyant. Un chrétien qui ne marche pas selon la norme de la parole de Dieu, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il faut que je me ressaisisse. L'Écriture est claire. Elle est claire, elle éclaire vraiment nos pensées. La parole de Dieu, c'est une puissance, mais elle éclaire. Elle nous éclaire. Et l'Écriture nous dit ici, quand nous regardons dans la parole de Dieu, on peut regarder dans 2 Timothée, toujours, si vous avez encore votre... Dans 2 Timothée 3, que je suis parti trop loin. Elle dit à Timothée, elle dit, demeure, verset 14, et de toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Sache de qui tu les as appris. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres et qui peuvent te rendre sage à salut et par la foi en Jésus-Christ. Alors, il parle à Timothée. Timothée est qui pour Paul? Timothée était le fils adoptif de Paul. Il l'a coaché. Il lui montrait comment marcher, comment travailler dans la pastorale. Cette lettre a été écrite à Timothée, le comportement qu'il doit avoir dans la vie chrétienne de tous les jours, comment il doit vivre une vie sainte et correcte. Il dit, tu as appris les Écritures dès ton jeune enfance. Dès ton enfance, tu as appris cela. Alors applique cela dans ta vie. Accroche-toi à cela. Chacun de nous, nous avons appris la parole de Dieu. D'autres l'ont appris très jeune. D'autres sont en train d'apprendre maintenant. D'autres sont en train d'apprendre quand ils sont vieux même. Mais il n'y a pas d'âge pour apprendre la parole de Dieu. Mais ici, la parole de Dieu, elle éclaire. Et Paul dit à Timothée, elle éclaire. Tu les as apprises. Elle t'éclaire à faire le bon choix. Elle t'éclaire à t'empêcher de faire du mal. Elle t'éclaire à te permettre de marcher là où il faut. Alors si tu te fies à elle, elle est une bonne guide pour toi. Et quand nous continuons le verset 14, il dit, demeure dans toutes ces choses que tu as apprises et reconnais certaines, sache de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres plutôt, et qui peuvent te rendre sage. Donc la parole nous rend sage, nous rend intelligent, nous permet de marcher dans la droiture et dans le discernement. Il dit, à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. La parole de Dieu, elle peut nous instruire dans la justice. Elle nous convainc. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Attends, je reviens vite. Elle est efficace. Pourquoi? Parce qu'elle peut nous sauver. Elle peut nous sauver. La parole de Dieu est efficace. Elle nous équipe. Et il nous dit, elle nous équipe. Ici, utile pour convaincre, pour corriger. C'est-à-dire que si tu es face à quelqu'un qui ne comprend pas l'Écriture, tu peux lui expliquer pour l'amener à la connaissance, à la compréhension. Elle peut nous corriger. Si nous sommes dans l'erreur, elle nous corrige. Elle instruit. Donc, on peut enseigner les gens avec. Et elle, dans la justice, pas dans l'erreur, pas dans le tort. Alors, Timothée est enseigné à vivre dans la parole de Dieu. Et nous aussi, nous sommes enseignés à garder la parole de Dieu et à marcher dedans. Et ici, l'Écriture, non seulement, elle est efficace, elle a l'autorité de Dieu, elle nous éclaire, mais elle est efficace et elle est suffisante. Elle est toute suffisante. Je n'ai pas besoin de lire d'autres livres pour comprendre les choses de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à faire autre chose, surtout si ça concerne Dieu. Je n'ai pas besoin. La parole de Dieu est toute suffisante pour moi et pour vous. La question, est-ce que la parole de Dieu est suffisante pour toi ce matin? Est-ce que tu te contentes de cette parole? Est-ce qu'elle prend toute la place dans ta vie? Ou c'est totalement le contraire? J'aimerais que nous sachions que ces réformateurs qui ont reformé l'Église, qui ont apporté, qui ont ramené les gens à l'Évangile, à la vérité de Dieu, l'ont fait au prix de leur vie. L'ont fait avec beaucoup de douleur et de souffrance. Ils sont fatigués. Mais nous, nous avons la parole aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce que nous sommes capables de la garder et de la vivre convenablement tous les jours dans notre vie, comme notre boussole? Monsieur Martin Luther a dit ceci. Devant tout la papauté et les princes, il a dit, un simple chrétien armé de l'Écriture est plus grand et plus puissant qu'un pape sans elle. Un simple chrétien, s'il n'a rien d'autre que l'Écriture dans sa main, il est plus puissant qu'un pape. Vous comprenez? Il est plus puissant qu'un pape qui est sans elle. Alors le zèle de la parole de Dieu doit nous brûler, doit nous amener à pouvoir propager la parole de Dieu. En conclusion, j'aimerais vous poser cette question en disant, alors l'Écriture ici est claire, comme nous venons de voir dans Timothée. Elle nous éclaire, elle est puissante pour nous aider à avancer, elle nous corrige, elle nous enseigne, elle nous instruit. Alors donc elle peut nous éclairer dans nos décisions, les choix que nous avons à faire. Elle peut nous édifier dans notre croissance spirituelle. Elle est suffisante dans le sens qu'elle peut nous nourrir dans beaucoup de domaines. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher en matière de Dieu la connaissance ailleurs pour pouvoir vivre notre foi chrétienne comme il faut. Alors c'est un recours, c'est une ressource abondante pour nous en matière de Dieu, en matière de la maison de Dieu, en matière de marcher pour Dieu, pour obéir à la volonté de Dieu. Si nous faisons cela, c'est bon. Et l'Écriture nous dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce matin, mon idée est de nous encourager à ne pas négliger la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent, je ne sais pas quoi faire, je ne connais pas la volonté de Dieu, je ne sais pas quoi décider. Mon ami, combien de temps tu passes dans la parole de Dieu? Si tu veux connaître ton Père, passe du temps avec ton Père. C'est en lisant ces Écritures que tu vas le comprendre. Si je passe plus de temps devant la télévision, plus de temps sur mon iPhone ou iPad, plus de temps dans Facebook, que je ne lis pas la parole de Dieu, comment je vais connaître mon Dieu? Je me suis assis récemment pour regarder beaucoup de jeunes. Le téléphone intelligent, quand c'est sorti nouvellement, tous ceux qui l'ont acheté, ils ont passé des heures à apprendre, à pitonner ça pour savoir comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Hein? On a passé des heures à pitonner. Maintenant, quand tu les vois écrits là, ils écrivent, ils ne regardent même pas. Mais pourquoi? Ils ont passé du temps à faire cela. Si tu passes du temps auprès du Maître, au pied de la croix, avec la parole de Dieu, tu vas comprendre et tu vas la connaître, tu sauras l'appliquer quand il faut. L'Écriture nous dit dans Esdras 7:10 dit, Esdras avait appliqué son cœur à étudier les Écritures et à les enseigner à Israël. Ce matin, que Dieu nous aide à appliquer notre cœur à la parole de Dieu. Nos cœurs à la parole de Dieu et à les mettre en pratique et à les enseigner et à vivre selon l'Écriture. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te dire merci pour ce 500 ans de la réforme. Nous sommes dans une société cosmopolite, notre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, des immigrants, qui viennent de partout. Nous sommes obligés de marcher et de vivre, de travailler avec eux. Seigneur, ma prière ce matin que tu nous aides face aux vicissitudes de la société, de la vie, que nous soyons capables de prendre des décisions en rapport avec ta parole. Que nous ne laissons pas ta parole à côté quand les moments cruciaux se présentent à nous. Que nous soyons capables d'utiliser ta parole à tout moment, dans des petites choses comme dans les grandes choses. Comme tu le dis dans ta parole, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est infidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Aide-nous d'être fidèles dans les petites choses et de pouvoir les appliquer pour pouvoir te glorifier. Accompagne chacun de nous. Que ta parole soit dans notre cœur tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.